Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
8h48 sur Sud Radio, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin avec, pour commencer, le travail à l'heure du variant Omicron. Avec la montée des contaminations et forcément des risques d'absentéisme nombreux, on parle de crainte de paralysie de l'économie du pays dès janvier en France. Pour nous parler de cette situation, on accueille Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, l'ANDRH. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Benoît Serre, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, je vais reprendre les derniers chiffres de Santé publique France. Un Parisien sur 100 est positif au Covid. 40% d'entre eux, c'est à Omicron. Alors, on parle des Parisiens ici puisque c'est ceux qui sont le plus touchés par Omicron pour l'instant. Quand on sait que la règle, c'est de s'isoler 10 jours quand on est positif, 7 si on est cas contact et même 17 si on vit dans le même foyer, le risque de blocage de l'économie en janvier, il est bien réel.
Oui, c'est sûr que le risque de perturbation, je ne sais pas si on peut parler de blocage, parce que la situation, alors c'est vrai qu'elle est plus grave que, en termes de contamination au moins, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça va créer des problèmes de fonctionnement, surtout dans les activités qui nécessitent la présence physique des personnes, en fait.
Surtout à un moment où l'économie repart fortement et on cherche aussi à recruter dans pas mal de secteurs, et notamment, vous parliez, les métiers manuels, où on a besoin aussi de recruter.
Voilà. Alors, c'est sûr que c'est un peu un cumul de situations qui rendent les choses compliquées. Comme vous le rappelez, l'économie est en pleine reprise, bien plus forte que ce que tout le monde avait imaginé. On a des problématiques de recrutement qui datent déjà de plusieurs mois. Si en plus on a de moins en moins de candidats parce qu'il y en a de plus en plus qui sont malades, c'est vrai que ça va pas nous simplifier la vie. En plus, la rentrée de janvier, il va falloir qu'on instaure un télétravail plus large que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, puisque vous savez que la ministre nous a demandé de passer de 2 à 3 ou 4 jours.
Voire 4,
Voire 4, plus le fait que, si j'ai bien suivi, en fait, du début décembre, on était à peu près à 40 000... contamination jour, là, on est jusqu'à 100 000, je crois, ce matin.
On redoute, en tout cas, jusqu'à plus de 100 000, du côté du Conseil scientifique.
Ça veut dire qu'on multiplie presque par 3 le nombre de contaminations. La grande difficulté dans tout cela, c'est d'abord pour les gens eux-mêmes, mais c'est également le fait que ce ne sont pas des absences qui sont prévisibles. D'une certaine manière, quand vous avez des absences prévisibles, vous organisez votre planning et vous vous en sortez. Là, ça arrive la veille pour le lendemain, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui complique les choses assez fortement, effectivement.
Bien sûr. Il y a cette question aussi de savoir sur la question de l'isolement. Parce que voilà, on a de nouvelles données chaque jour. On a notamment ces données de l'Agence de santé britannique qui nous dit, a priori, moins de risque d'hospitalisation, on va dire. Par contre, c'est confirmé, c'est plus contagieux. Est-ce qu'il faut notamment réduire le nombre de jours, par exemple, d'isolement ou retravailler sur ces conditions-là d'isolement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, en tout cas, qu'on en a besoin du côté de l'économie?
Alors, sur un plan scientifique ou sanitaire, j'en sais rien du tout.
Bien sûr.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est 10 jours. J'ai vu que le conseil scientifique avait proposé 7 jours. Bon, est-ce que ça changera fondamentalement la donne si on passe de 10 à 7? Ça peut arranger un tout petit peu, mais pas dans des proportions considérables. C'est vrai, mais c'est seulement il est nécessaire. Le problème, vous savez, il vient à la fois évidemment des gens qui ont la Covid, mais également des cas contacts.
Bien sûr.
Dans les entreprises, on constate beaucoup de cas contacts qui fait qu'ils sont absents pendant peut-être un jour ou deux jours, le temps de se faire tester, de revenir. Enfin, vous connaissez les règles.
Ouais.
C'est ça qui est le plus gênant. Passer de 10 à 7 jours, ça donnera un tout petit peu de souplesse, mais je ne pense pas que ça aura un effet considérable sur le bon fonctionnement des entreprises.
Et ça ne changera pas foncièrement la donne.
Non, je ne pense pas.
Actuellement, on est déjà sur des niveaux alarmants, entre guillemets, en termes d'absentéisme au travail.
Pour le moment, c'est un peu les vacances dans beaucoup d'organisations, pas partout, bien sûr. C'est vrai qu'on avait vu la vague monter depuis le 15 novembre à peu près. On voyait, on avait de plus en plus de cas Covid ou de cas contact, de gens qui vous disaient « je peux pas venir parce que la classe de mon enfant est fermée ». On voyait monter les choses quand même. Et puis, on est parti en vacances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en vacances, ce qui fait que quand vous avez des périodes de vacances comme ça, les entreprises, selon les activités, fonctionnent un petit peu en mode adapté ou dégradé. Pour le moment, on le ressent pas très fortement, et même dans les activités de commerce, par exemple, liées aux fêtes de Noël, quand je parle avec mes collègues des différents groupes de grande distribution, par exemple, ils me disent que comme ils ont une organisation particulière pour les fêtes, avec beaucoup d'intérim et beaucoup de CDD, de gens qui viennent renforcer les équipes, elles ne le ressentent pas. En revanche, tout le monde s'attend quand même à une rentrée de janvier assez compliquée, tant sur un plan de la présence, mais également sur un plan, je dirais, du moral des gens, en fait.
Bien
Parce
sûr.
que les gens sont épuisés, quoi. Donc, s'ils rentrent de vacances et qu'en plus, paf, ça retombe et qu'on repart sur une vague qui semble extrêmement violente, au moins sur le plan des contaminations, c'est sûr que ça va nous compliquer la tâche.
Avec tout un processus peut-être à revoir aussi, puisqu'on est sur un variant plus contagieux, c'est-à-dire que les protocoles qui sont en place en ce moment dans les différentes entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, eh bien, on doit revoir un peu ces protocoles, les changer. Ils sont pas suffisants
Alors, c'est ce
peut-être,
qu'on
non?
attend. On attend, je
D'autant
crois
plus qu'on
qu'il y
est
a
en
un.
pleine vacances, hein, donc vous l'avez dit, c'est
Voilà,
vrai que
alors
voilà.
bon. Je crois qu'il y a un conseil de défense sanitaire qui a lieu lundi,
Conseil des ministres, en
prochain,
l'occurrence, pour voilà,
du
pour
Conseil des
présenter
ministres,
ce passe vaccinal, en tout cas.
Voilà, donc est-ce que ça va. Alors, il y a le passe vaccinal, ça maintenant, on sait que ça va être présenté au Parlement. On sait aussi, semble-t-il, que le passe sanitaire en entreprise ne va pas être
Voilà,
proposé.
ouais.
On verra après au
Pas pour
Parlement,
l'instant.
ça c'est une chose. En revanche, est-ce que les protocoles vont changer? Est-ce que, par exemple, le gouvernement va nous réimposer 3 ou 4 jours de télétravail, alors que là, pour le moment, il nous incite essentiellement. Est-ce qu'on va renforcer les gestes barrières ou les distanciations sociales? Vous savez, là, on est à 4 mètres carrés. Vous vous souvenez que lors de la deuxième vague, je crois, on était monté à 8 mètres carrés dans un restaurant
C'est
d'entreprise.
vrai.
Est-ce qu'on va reprendre les règles qu'on a connues lors de l'espèce de semi-confinement qu'on a connu en octobre-novembre 2020? Où là, pour le coup, ça avait été assez compliqué quand même, hein, pour les organisations et pour les fonctionnements d'entreprise. C'est ce qu'on attend un peu tous lundi. C'est pour ça, d'une certaine manière, on va profiter de Noël, hein, et puis on verra ce qui va sortir lundi pour s'organiser pour
Ce qui
début
va nous
janvier.
tomber dessus, effectivement. Benoît Serre, on est en ligne justement avec des auditeurs qui nous appellent 0826 300 300. C'est un auditeur qui est
Oui, on
avec nous,
a
Marilyn.
Julien de l'Essonne qui voulait justement réagir et
Bonjour.
témoigner. Bonjour
Bonjour
Julien,
Julien,
bienvenue.
bienvenue sur Sud Radio. Vous
Le
vouliez
micro
réagir
vous est ouvert.
sur ce sujet, ouais.
Voilà, alors moi, je suis intrigué par cette stratégie du tout bas.
Ou alors,
Vraiment.
mon cher Julien,
Oui.
je vous arrête tout de suite, ça capte pas très bien.
On n'a que les consonnes.
On vous entend pas
Ah,
très très
excusez-moi.
bien.
Il faudra les voyelles avec.
Je vais me mettre.
Prenez pas trop de risques, attention, vous penchez pas trop par la
Quand ça va,
fenêtre.
ne bougez plus.
Non,
Voilà.
là c'est bon, vous
Oui,
m'entendez?
super
Ça
Julien,
bougez mieux.
super
C'est
Julien.
très bien.
Super,
D'accord.
allez-y.
Du coup, excusez-moi. Oui, donc du coup, moi, je suis un peu intrigué par cette stratégie du tout vaccinal parce que j'ai l'impression que tout est fait et mis en place pour qu'en fait, on ne se sente jamais d'une contamination lente. J'entends par là, c'est qu'en fait, les gens, quand ils sont vaccinés, ils ne sont pas plus protégés, enfin, ils n'ont pas moins contaminé les autres, ils sont toujours aussi dangereux, ils sont toujours aussi contaminants. Certes, ils sont moins malades, mais en fait, ça ne protège pas les autres, ça les protège qu'eux-mêmes. Or, le discours du gouvernement, c'est vaccinez-vous, ça protège les
Bah,
autres.
je ne sais pas si vous avez entendu ça. Alors, on va voir, hein, on va voir, mais ça commence à changer quand même sur. Olivier Véran l'a reconnu lui-même, hein, sur la question notamment de la virulence de ce variant Omicron. Hier soir, sur le discours, il avait un peu évolué. Sur le côté, c'était moins dramatique, moins dramatisant, on va dire, hein, sur ce discours. Donc, on verra ce que ça donne éventuellement. Mais on va faire réagir juste pour conclure, Benoît Serre. Il y a du côté des entreprises, il y a cette inquiétude aussi partagée par certains autour de la mise en place du pass vaccinal.
Oh, pas vraiment, parce que vous savez, dans beaucoup d'entreprises, on a poussé à la vaccination. Soit on pouvait la faire nous-mêmes, soit on l'a organisée, soit on a aidé les gens à se faire vacciner en leur donnant du temps, en s'organisant avec des pharmacies à côté, etc. Non, sur la, le moi, je suis pas médecin, mais ce que je constate simplement et ce qui a l'air d'être vrai, c'est ce que dit monsieur, à savoir que ça n'empêche pas la contamination. On le voit bien, on est à 100 000 contaminations. En revanche, ça empêche les cas graves. Or, les cas graves génèrent le blocage de l'hôpital qui pourrait générer un confinement. Et ça, sur un plan
Couvre-feu et
strictement
confinement.
économique, je parle pas du
Tout
reste,
à fait.
sur un plan strictement économique, ce serait une catastrophe absolue. Donc, il semblerait que la vaccination soit quand même une très bonne option. Voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir
Merci
été avec
beaucoup.
nous ce matin sur Sud Radio. Un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes. En
Merci, vous
attendant, bah,
aussi.
de se
Vous
remettre la
aussi.
tête dans le guidon lundi. Merci
Voilà,
à vous.
exactement.
Merci, passez
Allez, on
une bonne fête.
rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio, hein, Benoît Serre, vice-président national délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, Marine, on poursuit nos grands débats du matin.
Oui, sur cette information, Emmanuel Macron, qui n'ira pas passer Noël auprès des
Bah
troupes
oui.
françaises. française au Mali, on a appris ça. Notre invitée Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense, nous parlera justement de cette information. Sud Radio, à tout de suite, il est 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Bienvenue sur Sud Radio, 9h09, dans un petit quart d'heure, la suite des grands débats du matin, avec une question d'actualité pile poil pour ce 24 décembre, à la veille du 25 mai. D'où vient la messe de minuit? Pierre Brun, le Gouest, prêtre catholique, nous apprendra tout ça. Mais tout de suite, on continue les grands débats du matin et toujours vos appels.
Avant la messe de minuit.
Hein. Et oui, au 0826-300-300. Et pour ce Noël, Emmanuel Macron a donc décidé de rester en France. Il ne s'est pas rendu au Mali auprès des troupes françaises, comme prévu, la raison invoquée, le Covid. Pour en parler, on reçoit Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense, collaborateur Field Media et des revues Conflits et Télégrammes sur les... Bonjour.
Bonjour. Bienvenue. À tous les deux.
Bonjour. Merci de votre invitation. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, on le savait déjà depuis quelques jours, effectivement, que Emmanuel Macron ne serait pas sur place pour passer ses fêtes de fin d'année, en tout cas ce réveillon de Noël. Mais la nouveauté, finalement, c'est qu'on reconnaît du côté de la France, du côté du gouvernement, tout récemment, la montée en puissance des mercenaires sur place. Ça, c'est un grand changement finalement important à noter.
Oui, hier soir, pour la première fois, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées ont reconnu, le Quai d'Orsay, ils ont signé un communiqué conjoint, pardon, dans lequel ils confirment pour la première fois officiellement la montée en puissance à Bamako de la société militaire privée de mercenaires russes qui s'appelle Wagner, vous savez, celle qui défraie la chronique depuis quelque temps, qui affole un peu les chancelleries occidentales et en particulier Paris.
Alors pourquoi justement elle affole autant justement le reste des...
Peut-être, si vous voulez, revenons d'abord sur les faits. Ce que l'on sait, ce que nous ont dit aujourd'hui, hier soir, les officiels français... sous couvert de off, mais voilà, c'est le communiqué est assez clair, c'est que on aperçoit aujourd'hui, on constate un mouvement d'avions russes, militaires russes qui sur l'aéroport de Bamako, la montée en puissance d'un camp militaire sur cet aéroport qui serait commandé par des gens de Wagner sur place au Mali. Alors cette histoire de Wagner, c'est un peu un serpent de mer, et finalement c'est le cadeau de Vladimir Poutine à la veille de Noël, en particulier aux Français, puisque je pense que c'est un cadeau délibéré, un cadeau politique, une grenade empoisonnée en quelque sorte, qui embête bien tout le monde. Toute la question est de savoir qu'est-ce que Wagner peut faire sur place. Alors pour l'instant, on ne sait pas, il y a plusieurs pistes. Est-ce que c'est pour fournir une garde prétorienne à la junte à Bamako, junte qui a un souci direct avec la France, qui, vous le savez, depuis 9 ans maintenant, fournit les éléments qui font la guerre contre le terrorisme au Sahel. Est-ce que c'est cette hypothèse-là, ou est-ce que c'est une hypothèse plus large, beaucoup plus embêtante pour la France, qui consisterait pour Wagner à accompagner les forces armées maliennes au combat. Et là, effectivement, ce serait un vrai problème. Donc, pour l'instant, cette question reste en suspens. Mais cette question est au cœur d'un bras de fer aujourd'hui au Sahel. Un bras de fer avec trois partenaires, ou trois joueurs, en quelque sorte. Le colonel Goïta, qui a repris le pouvoir en août dernier à Bamako. Le président Emmanuel Macron, qui, vous le savez tous, va essayer de se faire élire en mai prochain, et qui évidemment ne voudrait pas avoir d'ici là recevoir le corps de soldats français dans la cour des Invalides. Cela ferait désordre, évidemment. Et puis le troisième invité qui tourne, dont on parlait depuis quelque temps, c'est la Russie. Et je pense qu'il faut comprendre cette montée en puissance qui vient d'être décidée à la veille de Noël, à l'aune des tensions fortes et du bras de fer, pour le coup, américain nos Russes un peu avec les Européens sur l'Ukraine. Il y a aujourd'hui une partie très très importante qui est en cours de jeu là, entre les Américains et les Russes, sachant aujourd'hui que les Européens sont
tous les jours chacun avance ses plans, quoi.
Voilà. Et là, effectivement, le Russe Vladimir Poutine lance un pavé dans la mare historique française. C'est la deuxième fois que Vladimir Poutine avance ses pions dans le pré-carré français. La première fois, c'était à Bangui, en République centrafricaine, africaine. Je le rappelle quand même à vos auditeurs, parce que la France officielle, le gouvernement français est très mécontent de l'arrivée de Poutine, mais il faut quand même comprendre une chose, rappeler une chose, c'est qu'en République centrafricaine, c'est la France qui a fait appel à Vladimir Poutine dans les années 2014-2015, j'ai plus la date exacte, pour des raisons juridiques, la France a fait appel à la Russie pour réarmer en fait l'armée, pour redonner des armes à l'armée centrafricaine auquel la France, à la formation duquel la France participait.
Ouais, ouais.
Et petit à petit, la France s'est retirée de République centrafricaine et à ce moment-là, les Russes sont arrivés. Donc les Russes sont arrivés à l'aune d'un vide.
Et là, ça pourrait être bis repetita.
Exactement, la nature géopolitique est hors de vide, comme vous le savez.
Sûr, ouais.
Et
ouais.
Là, la France, effectivement... alors, il faut... au Mali, en fait, le bras de fer franco-malien est le suivant, c'est que le colonel Goïta est donc un militaire, a évincé le fameux Ibeka qui était au pouvoir depuis les années 2012-2013 et qui effectivement faisait un peu du surplace, c'est-à-dire ne transformait pas les succès tactiques militaires obtenus par les Français en avancées politiques. Et donc il y avait un vrai problème, y compris même dans l'opinion politique malienne.
Ouais.
On lui reprochait notamment de ne pas relancer les négociations avec les gens du Nord contre lesquels l'armée malienne se bat. Il faut savoir que le Mali, il y a toujours eu une succession de coups d'État au Mali et que la seule institution solide qui tienne au Mali, c'est l'armée. Et que donc, il y a toujours eu, c'est pas une tradition, mais enfin, c'est quand même une habitude. Ouais. Allez-y, pardon.
Non, je disais, à ce moment-là, donc on est dans une stratégie de désengagement progressif de la France. Donc ça veut dire que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si la Russie entre en jeu véritablement, il y a un intérêt positif pour nous ou pas ? Il y a des retombées qui peuvent être positives pour nous ou pas ?
Alors, quelle est la situation militaire française au Mali actuellement ? Le 20 décembre dernier, la France a fermé sa dernière base au Nord Mali. Elle a décidé de se replier du Nord Mali et de se concentrer, de concentrer ses troupes, de diminuer le format des troupes. On va passer de 5 000 à 3 000 hommes environ et de concentrer le format des troupes dans le sud-est du Mali sur 3 bases, Ménaka, Gossi et Gao, qui se situe au niveau du fleuve Niger, dans la partie sud-est. Et donc, je le disais, de diminuer son format. Et vous savez qu'aujourd'hui, elle a 3 missions. La première, c'est qu'elle continue à former l'armée malienne. La deuxième, elle accompagne l'armée malienne au combat via le dispositif Takuba, qui est en fait un concentré de forces spéciales européennes qui appuient en fait les forces armées maliennes. Et la troisième mission, c'est ce qu'ils appellent la réassurance. Quand il y a un vrai problème, à ce moment-là, on fait décoller la chasse française, on fait décoller les hélicoptères, on fournit du renseignement pour appuyer véritablement quand il y a un danger. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, les cartes peuvent être aussi rebattues de ce point de vue. Certains Français, ici à Paris, militent pour un retrait pur et simple du Mali sur le Niger, pour se concentrer sur le Niger et finalement laisser un peu les Maliens. Ils disent aux Maliens, vous voulez jouer avec les Russes, vous voulez négocier avec le Nord sans nous. Eh bien écoutez, débrouillez-vous, nous on se replie, on se concentre sur le Niger, et finalement ça arrangerait un petit peu les affaires politiques intérieures d'Emmanuel Macron, ça permettrait aussi d'alléger le dispositif à la veille de l'élection présidentielle. Donc vous voyez, tout ça c'est assez complexe et c'est un véritable tournant et dans les semaines qui viennent vont être cruciales.
D'un mot pour conclure sur les semaines qui vont venir, sur la menace islamiste, sur le risque là-dessus de base arrière, ça veut dire que c'est un point positif, négatif, ces évolutions qu'on va suivre justement sur ces toutes prochaines semaines. Ça peut basculer, ça peut avoir une importance vraiment importante.
Je ne comprends pas votre question en fait.
Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, sur ces changements qui s'opèrent là, on a compris que ce sont des changements majeurs qui vont s'opérer dans les prochaines semaines. Quand on voit sur l'organisation qu'on peut avoir, les organisations islamistes qu'on peut avoir sur place.
La menace,
voilà. Mmh. Et éventuellement, ce côté un peu base arrière qu'on peut avoir justement sur place, est-ce que là-dessus, on peut avoir un impact négatif sur ces changements, est-ce que ça peut opérer un impact négatif ?
Alors, toute la question est de savoir si, avec un dispositif réduit, un concentré de forces spéciales et de moyens technologiques importants, on est encore capable de gérer la menace. Il faut savoir que la menace, elle continue d'augmenter, et en particulier, elle descend vers le sud. Tout le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est mité par l'islam radical et par les groupes djihadistes. Le Burkina Faso est un trou noir aux mains des djihadistes. Le Togo, le nord du Togo est du Bénin sont aujourd'hui des zones complexes, et même du côté du Sénégal, l'inquiétude est forte. J'en veux pour preuve une déclaration faite par le général qui commande les éléments français du Sénégal, qui a alerté lors du sommet de Dakar il y a quelques semaines sur la progression de cette menace djihadiste. Donc c'est un pari que fait la France. On va voir si ce pari est tenable dans les semaines, les mois qui viennent.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Rudy Radio. Meriadec,
Raffray,
merci pour toutes ces informations. Effectivement, bah oui, c'est important. On n'en parle pas souvent, pas assez souvent dans les médias. C'est important justement d'en parler ce matin. Je rappelle, journaliste spécialiste des questions de défense, collaborateur chez Filmedia pour les revues Conflits et Télégramme. Merci à vous.
Merci, merci beaucoup, Benjamin. Merci de passer de bonne fête.
9h19 sur Sud Radio. À suivre, bien sûr. Eh bien, on continue ces grands débats du matin avec, bien sûr, avec vous. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler si vous voulez réagir sur les sujets dont on va parler. Notamment, bah là, on va faire la messe de Noël de minuit un petit peu en avance, ma chère Marie-Lina.
Eh bien oui, mais c'est surtout d'où vient la messe de minuit. Oui, on va apprendre ça avec notre invité Pierre Brun, le Gouest, prêtre catholique, curé de paroisse dans le Morbihan. Et tout de suite,
et j'ai entendu quelque chose.
Les gling-gling.
Parce que je vous entends sur la messe de Noël. Ça, oui, ok, d'accord, on va le faire tout à l'heure. Mais là, tout de suite, j'ai l'impression qu'on a des cadeaux.
Mais on a un visiteur surtout. C'est qu'avant de distribuer les cadeaux ce soir, le Père Noël a des cadeaux chez Sud Radio.
Eh ben oui.
Et vous avez plein de cadeaux à gagner. Le livre CD collector Aimer Encore, dédicacé par Julien Doré, ou bien des chocolats Nougalais, ou même des sauts en parachute en tandem chute extrême. Ça se passe au 0826 300 300. Benjamin, un numéro entre 1 et 20, s'il vous plaît.
Ah, je peux pas dire 24 décembre, Noël,
non plus,
tout ça.
Bon, ni bon, d'accord, bah,
je dis le 6e. Allez,
le 6e appel qui sera dans un instant en direct pour recevoir le cadeau de Noël. Sud Radio, ce sera la surprise. 0826 300 300. On attend vos appels. Sud Radio, et 9h20. Ah oui, bonne chance. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h22 sur Sud Radio. Tout à l'heure avec Jacques Pessis, il nous emmènera avec ses invités dans leurs souvenirs de Noël. Donc restez bien avec nous. Et sinon, on continue les grands débats du matin.
Avant les souvenirs de Noël, la messe déjà, la tradition, on commence par ça.
Exactement, vendredi 24 décembre, ce soir, certains d'entre vous iront peut-être à la messe de minuit. Et alors la grande question, c'est d'où vient-elle? Pour nous expliquer ça, on reçoit Pierre Brun, le Gouest, prêtre catholique, curé de paroisse dans le Morbihan. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour à tous les deux.
Bonjour et bienvenue effectivement sur Sud Radio. J'imagine forcément que c'est un moment particulier que vous vous apprêtez à vivre avec vos fidèles, comme chaque année, j'ai envie de dire. Alors certes, le Covid est toujours là, mais les mesures sont moins nombreuses tout de même que l'an passé. C'est un Noël déjà un peu plus serein, on peut dire, Pierre Brun, le Gouest, là-dessus.
C'est un Noël plus facile à organiser comparé à l'année dernière, certainement. Ouais. Par contre, c'est un Noël qui est quand même marqué par la peur du Covid dans les esprits. Donc ça aussi, on doit en tenir compte d'une façon toute particulière cette année. Évidemment, les normes sanitaires sont en place, mais avec la recrudescence de la contamination ces derniers jours, je pense que beaucoup de fidèles viendront avec une légère appréhension, sans aucun doute. C'est aussi l'occasion de poser aussi un acte de courage, parce qu'on sait bien que il nous faut apprendre à vivre avec le Covid, et chacun d'entre nous, on est renvoyé à des priorisations. Certains vont sans doute prioriser les repas en famille, d'autres font aussi le choix de mettre ce rendez-vous spirituel et ces retrouvailles à l'église comme un ingrédient à assumer dans ce contexte sanitaire.
Courage, même si forcément vous allez mettre en place bien sûr toutes les mesures qu'il faut pour éviter le moindre risque.
Effectivement, ouais. Effectivement. Bah, le gel, les masques et le souci de répartir les fidèles de façon raisonnable dans les édifices font partie maintenant de nos pratiques quasi ordinaires, évidemment.
J'aimerais qu'on parle avec vous, alors qu'on fasse un petit peu d'histoire, si ça vous dit, justement, sur cette messe de minuit, notamment, parce que c'est vrai que c'est la tradition de tout temps. D'où elle vient, cette notion de messe de minuit, le 24 au soir? Alors, messe de minuit qu'on n'appelle plus forcément messe de minuit, parce que maintenant, c'est aussi 18h, 21h, même plus que minuit, quoi.
Exactement. Alors, déjà, le choix de la date, elle a été le fait de célébrer la naissance, on appelle la nativité du Christ, le 24 décembre, ça remonte au 4e siècle, à Constantin. Et c'est le pape Grégoire le Grand, au fin 6e, qui va célébrer une première fois, j'allais dire, une messe à minuit. Pourquoi minuit? Tout simplement parce que les évangiles relatent la naissance du Christ au cœur de la nuit. Mais aujourd'hui, en 2021, au sens strict, vous avez quatre célébrations possibles de Noël. Il y a ce qu'on appelle la messe de la veille au soir, la messe de la nuit, donc celle qu'on appellerait volontiers messe de minuit. Vous avez la messe de l'aurore, ou appelée aussi la messe des petits bergers, qui est une messe que seules souvent les communautés religieuses célèbrent parce qu'elles ont le loisir de pouvoir célébrer plus facilement, j'allais dire, et que l'horaire leur convient plus qu'à des familles. Et puis vous avez la messe du jour, la messe du 25. Le 24 et 25 décembre, voilà les quatre possibles célébrations dans les paroisses. Dans les paroisses, nous avons souvent la messe de la nuit, messe dite de minuit, célébrée, comme vous l'avez dit, parfois à 18h, à 19h, à 20h, à 21h, à 22h, 23h, et puis la messe du jour, qui est souvent plutôt vers 10h30, 11h.
Il y a un moment qui est important aussi sur chaque messe, finalement, c'est l'homélie aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce que vous allez dire à vos fidèles, ce sur quoi vous voulez insister peut-être.
Oui, on travaille souvent ces prises de parole qui sont exigeantes, qui doivent être adaptées aussi à une population.
Vous faites qui le 24... comment concrètement ça vous prend combien de temps d'ailleurs justement à l'écrire cette homélie? Est-ce que vous écrivez tout? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation aussi au-delà du message principal?
On prépare souvent ça plusieurs jours à l'avance, d'abord dans la prière, c'est-à-dire qu'on y revient, on revient sur les textes, puisque c'est vraiment l'évangile qui nous est donné, avant tout. Donc on y revient souvent dans la prière tout au long de la semaine qui précède, et puis après, ça varie beaucoup en fonction des prédicateurs. Il y a très souvent des prises de notes, à minima, parfois c'est rédigé. Pour un 24 décembre, la première chose, à avoir à l'esprit, c'est la grande diversité de l'Assemblée. Vous avez vraiment des croyants qui portent leur vie de foi, j'allais dire, au cœur. Puis vous avez toutes ces familles qui viennent aussi se réunir, qui sont ce qu'on pourrait appeler des fidèles occasionnels. Donc c'est évidemment un propos large, un propos bienveillant, un propos pédagogique. Il y a aussi beaucoup d'enfants. Et dans ce contexte particulier du Covid, il y a un véritable enjeu aussi de douceur et d'unité. Parce que ça n'aura échappé à personne que les familles sont sous tension.
Elles sont sous tension,
notamment autour des questions sanitaires. Donc, il y a un vrai enjeu de douceur évangélique dans les familles pour que les questions de sanitaires ne deviennent pas l'élément qui vient gâcher la fête.
Qu'on puisse se retrouver aussi, tout simplement. C'est important. Un grand merci, Pierre-Bernard
Legouest,
d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, prêtre catholique, curé de paroisse dans le Morbihan, en Bretagne. Je vous remercie.
Et bonne messe.
Joyeux Noël.
Minuit.
Et puis, bonne messe tout à l'heure aussi, bien sûr.
Merci à tous les deux. Belle fête de Noël à vous et à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Allez, 9h.
Joyeux Noël avec Sud Radio.
On a une gagnante, c'est Nathalie
Noël,
de l'Hérault.
Effectivement, Noël, il y a le côté fête religieuse et puis aussi les cadeaux.
Ah ben oui, surtout les cadeaux.
Alors
bien les
gagnantes.
Nathalie de l'Hérault qui est avec nous.
Bonjour Nathalie et bravo.
Bonjour, bravo.
Bonjour, merci beaucoup.
Félicitations.
Je suis contente de vous avoir.
Ah bah nous, on est contents de vous avoir. Ah bah nous aussi.
Et nous donc. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à savoir ce que vous avez gagné. Quoi,
on va découvrir votre cadeau qui est au pied du sapin de Sud Radio. On
écoute. Allez, on ouvre.
Joyeux Noël. Voici votre cadeau Sud Radio.
Nathalie, vous avez gagné un téléphone Honor grâce à Cash Express, qui est le spécialiste de l'achat-vente cash aux particuliers de produits d'occasion, et tout est sur cashexpress.fr. Vous avez gagné un beau téléphone, Nathalie, bravo.
Oh, ben super, en plus je comptais changer le mien.
Ah ben voilà, ça y est, c'est fait.
Ben c'est bon, c'est fait, ouais. Il n'y a plus besoin d'y penser.
Merci en tout cas, félicitations.
Merci beaucoup.
C'est
merci
Noël avant Noël.
Au Père Noël Sud Radio.
On lui dira.
Mais comme je disais, vous êtes une radio formidable. Ne changez rien, vraiment. Parce que c'est vraiment très très bien ce que vous faites, toutes vos émissions. J'adore les écouter. Elles sont super. Je suis une fidèle auditrice.
Eh ben, c'est gentil.
Vous êtes notre cadeau du matin, voyez.
Continuez à rester fidèle à Sud Radio. En tout cas, on continue d'être là pour vous, bien sûr. Et puis un très joyeux Noël à vous, Nathalie.
Merci beaucoup.
Merci pour
vous. Passez une belle fête.
Et bonne fête à vous.
Bonne fête.
Ah bah voilà, c'est Noël. Bah oui. Et on va continuer d'en parler justement de Noël. 9h30, on revient dans un tout petit instant. Alors peut-être avec une question un petit peu triviale, mais pour savoir un petit peu avec la présidentielle qui se rapproche, si l'électorat catholique pèse un petit peu ou non justement dans ces élections. Est-ce que ça va compter leur vote? Parce qu'ils sont un peu dragués par certains candidats. On le verra dans un instant avec notre invité. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie Linéraud.
9h32 sur Sud Radio, bienvenue à vous. Si vous vous réveillez, si vous finissez d'emballer vos cadeaux, ou si vous êtes déjà en cuisine pour préparer...
On peut peut-être commencer aussi, hein. Il n'est jamais trop tard.
Oui, Benjamin, vous parlez de vous là, je sais.
Non.
En tout cas,
certains auditeurs aussi, j'en suis sûr. Je ne montre pas du doigt.
Dans un instant, en tout cas, on accueillera Félix Mathieu qui nous parlera de l'Afghanistan, parce qu'il reviendra sur les événements qui ont marqué 2021.
Ouais, la chute de Kaboul,
tout
notamment.
À fait. Mais tout de suite, la suite de nos grands débats qui va allier politique et religion pour les élections présidentielles qui arrivent. Et oui, est-ce que le vote catholique peut-il encore peser dans la balance? Pour nous éclairer, Guillaume Bernard, politologue spécialiste de l'histoire des institutions françaises et des idées politiques et juridiques, maître de conférence à l'Institut catholique de Vendée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Bernard, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le christianisme, qui, rappelons-le, reste de loin la religion la plus représentée en France, quasiment 38 millions de croyants, mais moins de 7% de pratiquants. D'où la question qui se pose, et Marilyn en parlait à l'instant, est-ce qu'il pèse encore cet électorat catholique, Guillaume Bernard, si tant est qu'il soit un petit peu homogène?
Eh bien écoutez, j'aurais tendance à vous faire une réponse de Normand, oui et non. Non, l'électorat catholique ne pèse plus puisque, comme vous venez de le dire, les catholiques pratiquants ne représentent plus véritablement un poids électoral suffisant pour faire à eux seuls l'élection. On considère que les messalisants, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe tous les dimanches, c'est 2 à 3% de l'électorat. Les catholiques pratiquants, comme vous venez de le dire, réguliers, c'est 7%. Et les catholiques pratiquants, donc messalisants, réguliers et occasionnels, c'est 13 à 15% de l'électorat. Donc, si vous pesez 15% de l'électorat, bah, vous ne faites pas, évidemment, l'élection. Pourquoi ? Parce que ces catholiques pratiquants, ils ont effectivement un vote différencié du reste de la population. Les catholiques tout court, c'est-à-dire ceux qui sont culturels, ceux qui sont...
C'est à peu près la même chose que...
C'est la même... Ils votent exactement de la même manière que le reste de l'électorat. Ouais. En revanche, les 15% de catholiques pratiquants réguliers ou occasionnels, ils ont un tropisme à droite. C'est sûr que 80% de cet électorat-là vote à droite et 20% vote à gauche. Alors, il n'y a plus vraiment de chrétiens de gauche très marqués à gauche.
C'était beaucoup le cas sur la 4ème République, notamment, encore. Ouais.
Absolument, absolument. Et donc, ces 20%-là, ils se sont modérés, ils votent pour Macron, plus, je dirais, les anciens catholiques centristes qui votent pour lui. Donc, aujourd'hui, c'est 30% des catholiques pratiquants, je parle bien uniquement de cela, 30% de cet électorat-là vote pour Macron. Vous allez avoir toujours un centre de gravité de cet électorat catholique pratiquant pour la droite modérée, 45 à 50%, et le reste, il s'est radicalisé depuis une vingtaine d'années et il va voter à la droite de la droite. Alors que dans les années 90, on n'avait que 5% des catholiques pratiquants qui votaient pour l'extrême droite ou la droite nationale, appelez-la comme vous voulez. Aujourd'hui, on va avoir environ 20% qui va voter. Alors ça, c'est tous âges confondus. Si vous regardez les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 35 ans, ceux-là sont encore plus radicalisés puisqu'on va atteindre des scores chez les catholiques pratiquants de moins de 35 ans, plus de 30% qui va voter pour la droite nationale. Évidemment, est totalement en distorsion avec le reste de l'électorat.
Il y a une différence.
C'est clair, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité pour les catholiques de faire à eux seuls l'élection. En revanche, ils pèsent encore suffisamment pour prendre, je dirais, pour faire balancer une élection d'un côté ou de l'autre en fonction, de leur...
C'est quoi d'ailleurs, Guillaume Bernard, la dernière élection, si on fait un petit peu d'histoire, où le vote catholique a réussi à faire basculer d'une certaine façon, au moins minima, une élection?
C'est l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire que là, on a eu vraiment une concentration du vote catholique pratiquant sur Nicolas Sarkozy, tandis que, effectivement, le reste des catholiques, se répartissait à peu près de manière identique au reste des Français sur les autres candidats. À l'inverse, on sait que le vote musulman, qui est un vote qui est, peu actif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abstention en son sein, ce vote-là, il se focalise essentiellement sur un vote de gauche. Ça a été le cas pour François Hollande en 2012, Et ça a été le cas pour Emmanuel Macron en 2017.
On le voit, hein, alors bascule à droite, mais clairement, c'est opération un petit peu séduction, si vous me passez l'expression, à 3 mois et demi de la présidentielle, avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour en Arménie, voilà, pour soutenir les chrétiens d'Orient. On sait que c'est un thème très important pour les catholiques français, cette défense des chrétiens d'Orient. Alors, ils n'étaient pas ensemble, hein, en voyage en Arménie, hein, c'était non. L'un puis l'autre, hein, on précise. mais comme quoi, il y a quand même encore un pouvoir, en tout cas, il y a cette nécessité, on a l'impression, voilà, de, voilà, pour eux en tout cas, c'est un électorat important, quoi, nécessaire.
Bah, je crois qu'ils pèsent encore quand même, hein, si ça représente, ces catholiques pratiquant 15% de l'électorat, ça, c'est quand même important pour accéder au deuxième tour d'une élection présidentielle. Et puis ensuite, je crois qu'il y a une question tout simplement de cohérence de leur discours, c'est-à-dire que pour un Éric Zemmour qui se dit le défenseur de l'identité nationale, bah, il est assez logique que, puisque le catholicisme fait partie de l'identité, de l'histoire de la France, ouais, eh bien, qu'il apparaisse comme étant cohérent aussi bien en interne qu'en externe. Après, évidemment, pour Valérie Pécresse, je crois qu'il y avait aussi une volonté de répondre aux attaques qu'elle subissait en tant que présidente de région, parce que, eh bien, elle avait eu une attitude plus ou moins complaisante vis-à-vis du multiculturalisme, vis-à-vis d'un certain nombre de positions locales vis-à-vis d'imams, et que donc effectivement elle voulait sans doute essayer de rééquilibrer les choses. En tout cas, il est sûr que Pécresse et Zemmour, c'est le cœur de l'électorat catholique pratiquant. On va voir effectivement s'il va encore se radicaliser comme il l'a fait, cet électorat, depuis une vingtaine d'années, et dans ce cas-là basculer plutôt chez Zemmour et Marine Le Pen que rester chez Valérie Pécresse. Ça sera une élection intéressante de ce point de vue-là, du point de vue sociologique.
Un enjeu à suivre, en tout cas. Bah, merci pour vos lumières, si vous me passez l'expression. Merci. En tout cas, la métaphore intentinée religieuse. Mon cher Guillaume Bernard, je vous souhaite en tout cas très bonne fête à vous, et puis merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Je rappelle, vous êtes historien du droit, et puis par ailleurs notamment co-auteur, on peut le dire, avec Corentin Stemmler, de L'Empereur et les Brigands, nouvelles éditions latines. Merci à vous, et puis joyeux Noël.
Merci beaucoup. Merci, joyeux Noël à tous. À vous.